Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr. On va parler d'entreprise, d'entrepreneuriat. On va parler aussi des êtres humains qui dirigent ces entreprises-là, hein? Parce que ça prend des êtres humains derrière ça. Aujourd'hui, on est bien contents. On s'en va vers le 500e épisode. Je le sais, vous m'envoyez des petits courriels. Vous me dites, Réjean, comment ça? Des fois tu le dis, des fois tu le dis pas. Bon, c'est vrai qu'on a interrompu un petit moment... la nomenclature du décompte. Mais on recommence. On est rendu à 484 aujourd'hui. Yes, 484. On s'en va vers le 500. Réjean Gauthier avec vous pour la prochaine heure, encore une fois. Dans la jungle des affaires, je suis accompagné aujourd'hui. Chanceux, je me fais plaisir. Michel Jalbert qui est avec nous. Bonjour, Michel.
Allô, Réjean, comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Très bien, merci.
Diva esthétique, si vous voulez être beau. Ouais, puis les coiffures aussi. Si vous voulez être beau puis belle, hein, c'est ça. Hein, on est bien quand on sent...
Toujours.
Ouais, je trouve. C'est une belle drogue.
Hein? Totalement.
Oui. On se fait plaisir aujourd'hui.
Oui.
Belle entreprise.
Oui.
Je trouve ça le fun qu'on puisse parler d'abord avec un gestionnaire d'une entreprise, mais aussi d'une organisation. C'est le vrai mot. François Vincent qui est avec nous.
Bonjour.
Salut, ça va bien?
Ça va bien. Merci beaucoup de l'invitation. C'est ma première expérience podcast de balado.
Ah, ben c'est
vraiment
le fun.
Content d'être ici. Là. 484, c'est quand même assez majeur.
Vraiment.
Sur un thème relié aux affaires, relié aux personnes. Vraiment, je me sens privilégié de pouvoir passer ce moment-là avec vous. Merci.
Ben, merci, c'est gentil, François. Puis on va remercier Maude aussi d'avoir fait un peu l'entremetteur, hein, si on veut. Qui est dans ton équipe. FCEI, il y a 4 lettres d'entrée de jeu. Il y a des gens qui disent, c'est quoi ça? Là?
Moi, je le sais.
Ben oui, je le sais, t'es membre en plus.
Ben oui, absolument.
Ben oui. On va laisser François peut-être nous expliquer d'abord la vision, la mission, hein, pour mettre la table. Après ça, on va revenir sur l'humain. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses?
À 100% d'accord.
Ah oui, donc.
D'accord.
Qu'est-ce que c'est ça, la FCEI?
C'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI. Dans le fond, on est le plus gros regroupement de PME au pays. Nos deux lignes qui expliquent là, de notre organisation, c'est on est en affaires pour vos affaires. Dans le fond, qu'est-ce qu'on mange
en affaires pour vos argent.
Oui, c'est clair. Parce qu'on est un organisme à but non lucratif. Qui, dans le fond, va faire valoir la voix des petites et des moyennes entreprises au pays, dans les provinces, puis au niveau municipal. Parce que au niveau des décisions gouvernementales, tu sais, les grandes entreprises, ils peuvent avoir un lien direct avec les décideurs. Le garagiste, la personne qui lance son entreprise de nouvelles technologies, l'épicier, eux autres, ils ne peuvent pas prendre le téléphone puis l'appeler à moins qu'ils le connaissent puis que ça soit leur voisin.
Mais,
c'est eux qui drivent l'économie. Là. 99% des entreprises ont moins de 500 employés. Mm. Les petites entreprises, c'est le 2/3 des emplois du secteur privé. Donc, si on veut permettre aux décideurs publics de prendre les meilleures décisions possibles, bien, c'est important d'entendre la voix de nos entrepreneurs puis c'est ça qu'on fait. C'est une de nos trois jambes, d'une certaine façon. Fait que ça nous permet de courir plus vite en ayant trois jambes, mais pas deux.
Est-ce que j'ai bien entendu 99% des entreprises ont moins de 500 employés? Ah
ouais.
Ouais, OK. Pas canadiens.
Oui.
OK.
Puis après, quand on...
Impressionnant, j'aurais jamais pensé à cette statistique-là.
Au Québec aussi. Puis quand on regarde, c'est la moitié des entreprises, un petit peu plus, 53% des établissements employeurs au Québec ont moins de 5 employés.
Oh, quand même!
Puis ça, c'est présent dans 13 des 16 régions administratives du Québec.
OK.
Il y a certaines, celles qui ne le sont pas, ben ça va être 47 ou 46%, c'est moins de 5. La seule région où ça va en bas du 40%, c'est le nord du Québec. Mm-hmm. Mais après ça, les moins de 50, c'est 89% ou plus du total de tes entreprises dans chaque région administrative du Québec. Donc, quand on dit que la PME est le cœur de notre économie puis des régions, bien, Ben, c'est que c'est vrai.
C'est ça, effectivement.
Puis nous, ce qu'on fait...
C'est appuyé sur des chiffres.
Ben oui,
Nous, ce qu'on fait, dans le fond, ben, on a un volet d'influence, de représentation d'intérêt. Puis on va le faire suivant ce que nos membres nous disent. Mm-hmm. On est très démocratique. C'est pas 6 personnes dans un bureau qui vont décider ce que les PME pensent. Non, non. C'est eux qui nous disent ce qu'ils pensent, les dirigeants d'entreprise.
Vous communiquez avec eux.
Par sondage. Vous allez souvent nous voir avec nos pourcentages de sondage. Mais pourquoi on est tout le temps avec nos pourcentages? Parce que c'est ça qui nous donne le mandat d'aller faire notre présentation politique.
Oui, c'est clair.
C'est l'os. Puis nous, on va mettre la chair pour expliquer la raison, les comprendre. Puis ensuite de ça, on va aller faire valoir le point de vue de nos membres.
Alors, vous devenez comme la voix des petites entreprises.
Oui.
Des moyennes entreprises auprès des instances gouvernementales.
Exactement. Okay. On est la voix des PME au Québec puis au Canada. 97 000 membres au Canada, 21 000 membres au Québec, dans tous les secteurs d'activité économique, dans toutes les régions, aux quatre coins du Québec. Vous avez probablement déjà vu notre logo FCEI dans une devanture de commerce. C'est parce que c'est un membre votant qui peut justement influencer puis nous aider à aller de l'avant pour bien les défendre, puis aller chercher des gains pour leur permettre justement de croître davantage ou de prendre en considération leur réalité. Je pense que c'est un gros gain. Là. Puis si on n'était pas là, on entendrait beaucoup moins parler de PME. Deuxième, puis je vais arrêter de parler, ça fait longtemps que je parle.
On est là pour ça, ben oui.
Deuxième angle important de ce qu'on offre à nos membres, c'est un département de ressources aux entreprises. Donc, en gros, on va répondre à toutes les questions que le dirigeant d'entreprise peut avoir quand ils vont nous appeler. On a des professionnels qui sont dédiés pour ça. On ne fait pas de conseils fiscaux ni de conseils légaux, mais on va bien les orienter. Puis on est spécialisé au niveau des conseils pratiques en gestion de ressources humaines. On a des guides, des politiques gratuites, etc. Pourquoi? Parce que quand tu as une petite entreprise, souvent, tu n'as pas de direction de ressources humaines. Donc, nous, on joue ce rôle-là. Puis durant la pandémie, puis on pourra revenir, là, on l'a quand même vécu au front, la pandémie, comme nos dirigeants d'entreprise encore plus, là, nos membres. Mais on avait ouvert ce département-là à l'ensemble des entrepreneurs gratuitement parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Il y avait des nouvelles règles à chaque jour. On a tout pris nos représentants.
Les subventions gouvernementales aussi.
Ouais.
Hein?
On a tout pris nos représentants qui étaient sur le terrain, puis on les a formés pour répondre aux entrepreneurs, puis on a reçu au-dessus de 60 000 appels. Puis il y avait même des bureaux de sénateurs ou des ministères qui référaient à nous quand des entrepreneurs les appelaient pour avoir des questions. Fait que ça, c'est un volet très important de notre offre de service. Puis ensuite, des économies. On a la plus grande mutuelle de santé et sécurité au travail au Québec. On a des rabais avec une banque, on a des assurances, etc. Dans le fond, on va... utiliser le poids de notre membership pour aller chercher les meilleures offres, puis ensuite de ça, l'offrir à l'entrepreneur qui va devenir membre, qui peut aller soutirer des économies plus grandes que le coût de notre membership.
Oui, c'est ça
le but. Ne serait-ce que juste le TPV. Ben, moi, je suis membre de la FCI, tu l'as dit tantôt, Réjean, mais ne serait-ce que juste les économies avec le TPV, c'est énorme, là.
Oui. Est-ce que toutes les entreprises ont ce service-là? Ben, ou presque.
La majorité, du moins.
Oui, puis on est allé chercher, on a un volume, puis on a le terminal de vente, là, dans le fond, un des taux les plus bas, parce qu'on a le volume de l'ensemble des entreprises. Puis l'élément qui est à notre base, un peu, là, on accepte aucune subvention gouvernementale ou non plus quand on fait des partenariats. Fait que s'ils nous disent, bon, tu vas avoir une ristourne de 1 sou par membre, on va dire, OK, ben retourne à la table de dessin puis ramène-moi un taux plus bas parce que tu es capable de nous l'offrir. Fait qu'on va tout donner ce qu'il y a à nos membres.
Plutôt que faire un revenu.
Oui, c'est ça. Nous, 90 % de nos revenus, c'est notre membership. Peut-être un peu plus, mais parce qu'on a construit un édifice à Toronto puis là, on n'a plus d'hypothèque dessus puis on a des loyers dedans, là. Mais sinon, là, c'est notre membership, puis on le remet en jeu chaque année. On a des représentants qui vont aller rencontrer les entrepreneurs individuellement pour les écouter sur leurs problématiques, pour les orienter où on peut les aider, puis pour les renouveler. Donc, c'est pas un renouvel. Tu sais, oui, des fois, tu peux y aller sur le site Internet, etc., là, mais on remet en jeu notre membership pour assurer la meilleure représentativité possible, puis c'est notre modèle d'affaires. Là. On est vraiment là au centre de bien répondre aux membres, Puis nos actions de chacune des équipes se fait dans cette vision organisationnelle-là.
Je trouve ça le fun.
C'est vraiment intéressant.
Moi, j'ai été membre. Puis je ne sais pas pourquoi, c'est une question de renouvellement, là, mais je suis en train de rouvrir tous mes anciens courriels. j'ai même mon numéro. Bon. Demain.
C'est possible de le faire en ligne, en haut, à droite, adhérer. Ça se fait en deux clics.
Mais ce que je trouve le fun par rapport, c'est surtout les travailleurs autonomes. Je pense beaucoup dans mon travail, moi, de tous les jours. Je suis moi-même un travailleur autonome. Je trouve ça le fun d'avoir justement ce genre de service-là ou d'organisation-là qui peut t'accompagner.
Mm-hmm.
Dans ça. Je pensais, vous, cette semaine, quand ils ont parlé du 1$ de l'heure. Là, je vous vois rire, là, mais vous avez dû recevoir des appels d'entrepreneurs parce que on est content, là, tout le monde gagne une pièce de l'heure. Hey, let's go! C'est le fun. Non, mais je veux dire, je suis pas contre, là. C'est pas ça là, mon débat. Moi, je pense aux employeurs. Tu sais, j'ai déjà eu 200 employés. Hey, tu fais quoi comme employeur? Quand tu sais qu'un 1$ fois 35 heures, fois
combien d'employés?
Mm-hmm. Puis tu as vécu peut-être la même chose mm-hmm. avec ton équipe. Ça doit être... tu sais, on dit gérer une crise, là, ça... Non?
Ça, il y a eu des demandes médias.
Ouais.
on est allé au bâton. On a fait valoir l'opinion des dirigeants d'entreprise.
Je vous ai pris aussi.
C'est exactement ce que tu as dit. On n'est pas contre, mais non. Pourquoi ne peut-on pas prendre en compte l'impact que ça a sur l'entreprise? Puis c'est le propos qu'on a tenu. On a dit là, ça s'inscrit. T'sais, on comprend le rationnel du gouvernement. On comprend que tous les gouvernements vont augmenter le salaire minimum à chaque année. C'est,
l'inflation et tout,
c'est,
etc.
C'est normal, c'est sain. Puis il y a un modèle de 50 % du salaire moyen. Bon, ça donne 1$. Mais c'est 2 400 de plus pour un entrepreneur qu'un employé au salaire minimum. C'est 7 % d'augmentation.
C'est
donc, si je vais donner l'exemple, si tu es un travailleur, si tu es un étudiant à temps partiel qui gagne le salaire minimum qui est dans ton entreprise, parce que c'est 60 % des gens qui sont sur le salaire minimum, ce sont des gens d'entre 15 et 24 ans qui sont à temps partiel. Donc, ce sont des étudiants.
Ou des retraités, ou en tout cas des personnes un peu plus.
L'employé qui est là depuis plusieurs années, il va dire pourquoi moi, j'aurais pas de 7 non plus. Donc, un effet domino, c'est certain. Puis de l'autre côté, ça s'ajoute. C'est l'analyse d'impact réglementaire calculait que c'était 460 millions de plus qui vont devoir être payés par les PME. Mais ça s'ajoute aux 250 millions de dollars de plus qu'ils vont devoir payer parce qu'ils n'ont pas été inclus dans le bouclier anti-inflation de l'augmentation des tarifs d'électricité. Puis on est allé au bâton là-dessus aussi. Ça s'ajoute aux importantes augmentations des régimes de rente du Québec. Puis ça, ton entrepreneur au Québec doit vivre cet impact de l'inflation-là dans un contexte où ses taxes sur la masse salariale sont 32 % plus élevées ici qu'en Ontario. Je vais prendre cet exemple-là parce que le premier ministre utilise souvent l'Ontario. Donc, on a dit, ça serait peut-être... il est le temps d'ouvrir une réflexion sur notre avantage compétitif en termes de fiscalité, là, les taxes sur la masse salariale, 30 % plus élevées. On a 8 provinces sur 10 qui ont un taux d'impôt réduit plus bas que le nôtre. Puis on est la seule province au pays, la seule, qui ne donne même pas accès au taux d'impôt réduit pour les plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction. Donc, s'il y a une entreprise qui a moins de 3 employés, là, too bad, là, tu vas payer 259 % plus d'impôt parce que tu es trop petit. Aucun rationnel logique là-dedans.
Il n'y a rien de logique, là.
On
n'aide pas l'économie, quand on fait ça.
Aucunement. Surtout que quand on est plus petit, ça va avoir plus d'impact. Tous tes coûts vont être plus importants. Puis c'est un peu aussi ça, le coût au niveau de l'augmentation du salaire minimum ou de l'inflation. Puis on a fait une étude là-dessus en début d'année, février. On a calculé l'impact de l'inflation de 2022 par rapport à 2021, parce qu'on a une force de sondage assez importante. Et là, qu'est-ce que le dirigeant d'entreprise fait? Est-ce que c'est encore dans ses priorités? Puis après, comment il réagit? Puis est-ce qu'il y a une différence significative entre cette année par rapport à l'année passée? En gros, là, je vais résumer la recherche de 15 pages en deux phrases. L'entrepreneur va augmenter ses coûts dans 73 % des cas. Il va réduire sa marge bénéficiaire du 2/5 à peu près qu'ils vont faire ça. Ils vont réduire leurs investissements privés un petit peu plus que 30 %, puis ils vont augmenter leur endettement. Puis pour le plus petit, qui n'a pas les marges de manœuvre, l'économie d'échelle que les autres, puis que ses coûts restent les mêmes puis augmentent, bien, la proportion qui augmente les prix est plus basse, de presque 10 points de pourcentage pour les entreprises de moins de 5 employés. Donc, ils sont 64 % à augmenter les prix comparativement à 73, mais sont plus nombreuses, la proportion plus importante de réduction de la marge bénéficiaire, de diminution des investissements, puis ensuite de ça, d'augmentation de l'endettement. Fait que dans le fond, on affaiblit nos plus petites entreprises.
L'économie, le moteur économique du Québec, on l'affaiblit. Mais c'est un, on ne se le cachera pas, là. Les PME, c'est le moteur économique.
C'est le moteur économique, t'sais, oui. On
l'affaiblit, là,
oui,
en faisant ça.
La résilience de notre économie, la possibilité que la petite devienne moyenne, qu'elle devienne après...
C'est un peu comme la classe
grande.
Moyenne. On va arriver à maner, il n'aura plus.
Bien, ça, c'est... Oui, oui. Pas demain. Là.
C'est dur là, pour les PME. Mais... Là,
C'est parce qu'il y en a pour certains, cette augmentation-là peut être la fin, simplement. Là, de gens qui sont créateurs d'emplois. Fait, c'est
l'accumulation.
Oui, plusieurs facteurs.
C'est ça. Puis après ça, avec les autres défis que sont la pénurie de main-d'œuvre, de juste pouvoir trouver les employés. Donc, c'est beaucoup de vent directement dans le visage d'entrepreneurs qui se relèvent de deux ans de pandémie.
Beaucoup de casse-tête, effectivement.
C'est assez majeur. Puis, tu sais, sur l'inflation, on n'a pas entendu beaucoup d'autres organisations patronales en parler. Hein. Nous, on a fait des rapports de sondage, on a fait des omnibus, à la population, on a été très actifs là-dessus parce que le petit, là, à un moment donné,
il va mourir, là, le petit. Oui, c'est
ça. Il presse le citron, là, après ça, la limonade, elle goûte juste l'eau, là, tu sais.
C'est clair. Il n'y a plus de citron dans la limonade.
Puis son prix, lui, s'il augmente, la vente, là, elle va aller vers le plus grand, la chaîne américaine qui est capable d'avoir des économies d'échelle, ou la vente en ligne où c'est des gens américains encore qui contrôlent ça. Mais
oui, parce que
c'est
le consommateur n'est plus capable de suivre, là. Tu sais, à un moment donné, là, c'est tout augmente.
Ouais.
Parce que le propriétaire de la PME, ben, il faut qu'il refile la facture. Tu sais, il ne peut pas tout l'absorber, il va fermer.
C'est ça.
On prend la restauration.
Il va se fermer ou il peut se tanner aussi. Tu sais, les entrepreneurs, s'ils calculent leur taux horaire en fonction des bénéfices qui restent, puis là, tu leur en retranches encore plus, ça se peut que ce soit bégarde. Ça me tente juste plus.
Ça me tente juste plus.
Là.
Non, m'en retourner travailler à l'heure. Mm-hmm,
exactement.
Il va revenir dans son...
J'en ai eu des commentaires comme ça.
Oui, hein?
Parce que je lis l'ensemble des commentaires de nos membres à chaque sondage, là, au-dessus de 200 commentaires, puis ça nous permet de voir c'est quoi le beat, puis sur quelle question on va poser. Puis il y en a qui me disaient ça, là. Je suis en train de regarder avec la pénurie de main-d'œuvre. J'ai mon entreprise depuis, je pense que c'était 15 ans, cet entrepreneur-là. Je me rappelle plus dans quel secteur. Je pense que c'était administratif. Puis je vois les offres d'emploi passer pour être gestionnaire d'une grande entreprise. Puis,
je ferais plus d'argent là.
Oui, puis ça me tente. Mais mon dilemme actuellement, c'est de faire une croix sur tout ce que j'ai bâti.
Oui. Ben oui, c'est
puis
ça.
Là, je ne suis pas encore prêt à faire ce mouvement-là. Oui. Mais c'est quand même majeur qu'un entrepreneur, dans un commentaire ouvert, il vienne à s'ouvrir et à dire « mon enjeu, c'est ça, à savoir, je reste-tu ou je m'en vais travailler comme professionnel à taux horaire? » C'est quand même démonstratif de la pression qui se vit à l'interne. Non?
Absolument, parce qu'il y a beaucoup de perceptions des gens que tous les entrepreneurs, mon Dieu, font de l'argent, etc.
Ben oui.
Mais c'est
ah, toi,
pas
c'est
bien,
t'es chanceux, t'es
exactement,
en affaires.
Exactement.
Hey, toi, t'es chanceuse, t'es propriétaire de Diva, esthétique et coiffeur. Hey, toi, t'es chanceuse. Voyons donc. On travaille fort.
Moi, je te dirais, je fais partie de celle que s'il y avait une job de gestion ailleurs, je ferais plus d'argent.
Ben non, tout à fait. Ben, j'ai un ami, moi, qui est chef cuisinier. C'est niaiseux, là, un chef cuisinier. Mais il est actionnaire. Mais parce qu'il est actionnaire du restaurant, d'ailleurs, félicitations au restaurateur d'avoir compris ça.
Absolument.
Parce que quand tu mets ton chef cuisinier, partenaire financier dans la patente, il s'occupe d'acheter le coût des matières premières et tout ça. Bien, lui, là, si c'était chef cuisinier dans un autre restaurant, il gagnerait plus cher.
C'est sûr.
C'est pas drôle, là. C'est capotant.
C'est une vocation, être entrepreneur, là.
Puis comme tu dis, François, c'est qu'il veut pas laisser aller les 10-12 ans qu'il a bâti son
restaurant.
C'est pas facile, là, l'économie. C'est vraiment une jungle, hein?
Oui, mais sont résilients, mais c'est vraiment un bon titre.
Oui,
Tim,
merci beaucoup.
C'est ça, mais sont résilients, puis se sont lancés en affaires parce qu'ils aiment les défis.
Oui.
C'est juste que là, dans les trois dernières années, il y a eu des tempêtes successives
oui.
qui ont fait, qui ont donné un coup assez majeur. Puis ce sont des personnes qui ont créé leur propre emploi, qui réalisent leurs rêves à chaque jour. Mais encore là, il faut les aider parce qu'ils vont avoir un impact si positif sur l'ensemble de la société. Puis tu le disais tellement bien, là, tu sais, nos entrepreneurs, là, on pense souvent, ben, ils sont riches, puis ils vont se promener en grosse voiture. Là. Non, c'est eux autres qui vont avoir la voiture usagée, là. Puis peut-être qu'à terme, ils vont vendre puis ils vont être indépendants de fortune. Exact. Mais comme je parle, mais tous les investissements qu'ils vont avoir donnés, les heures de fou qu'ils n'auront pas calculé, hypothéquer la maison deux fois pour être capable de passer des soubresauts.
Ben oui.
Puis je le dis, tu sais, pour peut-être conclure sur l'inflation, là, que l'entrepreneur est triplement affecté par l'inflation. Parce qu'il l'est d'abord en tant que citoyen, parce que lui, ici,
il voit
ses prix augmenter. Ouais. Il l'est au niveau de son entreprise parce qu'il voit ses prix d'intrants augmenter partout. Mm-hmm. Puis après ça, il voit au niveau de la chute de consommation parce que les consommateurs doivent faire des choix devant l'augmentation des taux d'intérêt. Puis une diminution des possibles entrées, surtout pour des entreprises qui sont, j'aime pas ça le dire, là, non essentielles. Mm-hmm. Là, je mets des guillemets là, parce que là, les gens ne me voient pas. Là. Mais c'est elles qui ont été fermées plus longtemps durant la pandémie puis qui vont vivre les premiers impacts de la baisse de la consommation. Absolument. à cause de la forte inflation. Là. Donc, c'est pas simple pour les entrepreneurs. Là.
C'est pas simple. Puis si je peux me permettre, pour l'avoir vécu aussi, la COVID, etc., c'est épuisant tout ça, tu sais, de toujours, on dirait que c'est toujours bataille, un coup de barre dans les jambes.
Ouais, t'es tout le temps en train de combattre.
Exactement, hein? Exactement.
On est des Jedi. Hein? On est des Jedi. Mais François, un peu plus, mettons, ça va un peu plus en couleur, parce que, tu sais, c'est lourd. Mais c'est lourd, mais on est devant une réalité, puis il faut en parler. Puis là, il y a des organisations comme la FCEI. Oui. Qui peuvent éventuellement supporter nos entrepreneurs. Mais nous autres, on veut savoir aussi, François, on veut savoir, c'est qui ce gars-là?
Oui.
T'as-tu tannant à l'école ou bien il t'a pas tannant? Non, mais c'est vrai.
Il a pas l'air d'un gars
non,
qui était
moi, je pense qu'il était sage à l'école. Moi.
Je suis quand même
tannant. Ah, oui, ouais, c'était pas un régent, je pense.
Ah, ben le régent, il n'y a personne qui peut le battre.
Non, lui, il est trop dur avant. Mais François, pourquoi? Parce que je veux pas tout fouiller dans ton parcours académique, mais qu'est-ce qui a fait que le gars est rendu là? Là? Comment ça s'est passé, tout ce déclic-là?
La longue ou la courte histoire.
Ben là, écoute, il nous reste à peu près 40-quelques minutes. On est correct. 30 minutes, excuse-moi.
C'est une bonne question, le déclic. Ben, tu sais, moi, dans le fond, je vais pas diminuer ce que je fais, là, mais je vends de l'intangible, là, d'une certaine façon. Je porte la voix de dizaines de milliers d'entrepreneurs au Québec pour que ça soit pris en considération. J'analyse des projets de loi, les impacts, je m'en vais les défendre en commission parlementaire, je monte des stratégies pour que leur agenda soit considéré dans l'agenda gouvernemental. Donc, dans le fond, c'est de la politique
pour
publique.
Pour qui en parle, c'est ça. Toi, tu es de la politique publique. T'es comme un peu leur, comment je pourrais dire, pas un sauveur, mais je veux dire leur porte-parole. Puis toi, ben, à ce moment-là, ils peuvent pas vous écouter puis pas vous mettre à l'ordre du jour à cause que vous êtes là. Si les autorités gouvernementales décident qu'ils n'en parlent pas, non, on est là pour...
Oui, c'est ça.
Tu dis l'agenda, là.
Ben, dans la politique publique, c'est ça, c'est un contrôle de l'agenda. Le gouvernement, lui, ben, c'est lui qui légifère, donc il y a déjà un avantage, mais il y a tous les phénomènes externes qui arrivent, les crises... Ouais. Puis donc, qui joue dans l'agenda.
Oubliez-nous pas, hein, c'est un peu ça.
C'est de trouver une façon de s'inscrire dans l'agenda gouvernemental. Donc, quelles sont ses priorités? Comment mes priorités peuvent rentrer dans leurs priorités? Puis comment je fais valoir l'opinion de mes membres quand c'est positif ou quand c'est négatif? Puis moi, quand c'est positif, je vais le dire. Quand c'est négatif, je vais le dire. Fait qu'après ça...
Vrai politicien. Non, mais c'est vrai. Non?
Ben,
on dit les vraies affaires.
Oui, c'est de la politique, là, mais oui, mais mes boss, c'est mes membres, puis même si...
Ça,
même,
c'est bon, ça, même, j'aime ça.
Ben, c'est ça, ils payent une cotisation, puis après ça, moi, mon rôle, ben, c'est de faire valoir leur point de vue, quitte à ce que des fois ça grince, là, mais c'est, that's life. Là,
c'est ton rôle.
C'est mon rôle.
Le CNESST, anciennement...
CSC. Mais je n'ai pas répondu à ta question. J'étais tannant, puis pourquoi je fais ça?
Ben oui! Non, non, mais...
Bon, ben, tiens, je partirais une autre affaire. Puis là,
on voit que tu as un beau mélange de politiciens et d'hommes de...
J'étais intéressé quand j'étais jeune. On va partir, tu sais, moi, mon père, il est une famille de 14 enfants. Puis...
Ça faisait que t'as 13, mon oncle, ma tante.
Ouais,
c'est chanceux.
Ça faisait des gros parties. Ben puis oui. Il vient d'une famille d'agriculteurs
du centre
du Québec. Quand j'étais jeune, j'allais passer mes étés là-bas, dans une ferme laitière pour travailler, puis etc. Puis mon grand-père aimait bien ça, parler devant le monde, puis il était pro-Union nationale.
Dans quel coin, au centre du Québec?
C'était à Sainte-Séraphine. Là. C'était en Sainte-Perpétue, ouais, puis...
Il y a un beau camping, là. Il y a un beau camping, là. Sainte-Séraphine.
Oui, c'est le lac des Cyprès, c'est ça? Oui.
On s'en va là. Je suis en train de réserver.
Ah, ouais, c'est super. Puis il y a un festival de country qui est parti. C'est ma cousine qui...
Ben, voyons donc.
C'est Vincent, c'est ma cousine qui...
Ben, Vincent, c'est pas Patricia.
Ben oui, c'est ma cousine.
Ben, voyons donc. Je viens de faire le lien. Je la salue. Elle me connaît, on se connaît.
T'es 13, mon oncle, ma tante. Ça fait de la parenté.
Ben, là, on voit un peu. Là, quand tu dis Patricia, c'est ta cousine, là, on voit il y a de la famille là-dedans. Là, parce que ça bouge en tabarouette, Patricia. Là, on dit, tu t'ennuies pas là, à côté de Patricia. C'est impossible.
Non, plus extroverti que moi. Moi, je suis un introverti dans une job d'extroverti.
Non, c'est correct. C'est correct. Ça en prend, hein, des bleus, des cartésiens.
Oui. Je parlais, ben, je suis cartésien, mais après ça, j'aime l'action. Fait que je vais vouloir comme.
T'as un mélange rouge-bleu, c'est rare, ça.
Prendre le ballon, puis me rendre dans zone début. Puis après ça, si je me rends pas, pourquoi? Puis là, mon cartésien revient, puis je refais une stratégie.
Là, plusieurs tu l'analyses.
Puis là, j'essaie d'y retourner pour. Je vois pas, tu sais, je suis quand même driver dans le sens que je vois pas juste faire de l'analyse. À un moment donné, c'est assis, puis on y va, puis on fonce.
On passe à l'action.
Fait que je parlais souvent avec mon grand-père, puis j'étais, les enfants jouaient dans le sol, puis moi, je restais à la table des adultes, puis j'écoutais les adultes, puis j'aimais ça, ce genre de conversation. Après, j'ai eu une pause de cet environnement-là, puis à l'université, c'est revenu. Puis là, je me suis présenté dans mon association étudiante dans le temps, puis je suis monté, après ça, je suis allé à temps plein pour la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. C'est pas dans ma bio sur le site web.
Je checkais voir HEC. J'ai vu HEC tantôt.
Ouais, c'était après. Fait que là, j'ai été politicien étudiant d'une certaine façon. Puis après, je suis devenu président des étudiants universitaires du Québec en 2005-2006, qui était l'année après le conflit de 103 millions de prêts et bourses.
Ouais.
Moi, j'étais VP dans le temps. J'allais chercher les mandats sur les campus pour aller faire les grèves. Puis après ça, j'étais allé casser les grèves parce qu'on avait un deal avec le gouvernement. Fait que j'ai fait
les deux bords dans le fond.
J'ai fait de la représentation d'intérêt à ce moment-là, la représentation d'intérêt des étudiants pendant 4 ans à temps plein. Puis j'ai vraiment la piqûre de tout ça, de l'analyse d'un dossier, de la stratégie, de la représentation, etc. Puis j'ai continué là-dedans. J'étais allé dans un organisme de la CPMT. Comité consultatif jeune. Après ça, j'ai continué mes études à temps partiel, mon droit, ma gestion au HEC. J'ai fait des programmes de leadership, un programme d'Action Canada. Après ça, la FCU m'a approché pour que j'aille travailler pour eux autres.
À PCHQ aussi, j'ai vu.
J'ai fait 7 ans à la FCAI. J'ai monté les échelons jusqu'à être directeur. Après ça, la PCHQ est venue me chercher. Fait que je suis rentré comme directeur des politiques là-bas, je suis sorti comme vice-président des relations gouvernementales.
Puis tu es revenu à FCI.
Par la grande porte.
Ouais. Hein, c'est bon.
C'est un CV assez étoffé. Hein?
Ben, on va dire, là, on a quelqu'un qui sait de quoi il parle.
Oui,
non, c'est le fun, ça, dans la jungle des affaires, d'avoir des gens qui savent. Mais je pense que sur les 484 entrevues, c'est des belles histoires. Des belles histoires. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que ça vient de loin, mais j'aime ça quand je reviens encore sur le mélange extraverti-introverti.
Oui.
C'est rare que... Non, mais c'est vrai. C'est ce que j'enseigne, c'est mon travail au niveau des types de personnalités. Le rouge, bleu, jaune, vert. Puis d'avoir... souvent, on va avoir un vert, jaune, vert, bleu, rouge, jaune, tu sais. Mais rouge, bleu, c'est rare. J'aimerais ça te faire faire le test Nova.
Ah, oh, ça me ferait plaisir.
Oui. Fait, non?
Non, 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 j'en ai fait. J'ai fait la MBTI.
Oui, MBTI.
J'ai fait une coupe d'autres. Tu sais, quand on rentrait à la FCI, il y avait comme trois tests psychométriques. Oui. Là. Puis après, quand je suis redevenu gestionnaire en 2012, là-bas, j'avais dit, bien, je veux le refaire.
Ouais.
Moi, je suis où? Tu sais,
ben
j'étais exactement dans les mêmes cases.
Ouais. Ça, ça change, puis, hein, en vieillissant des fois ou avec la responsabilité ou peu importe.
Ouais. Puis admettons, tu sais, il y a un autre test, je ne me rappelle plus c'est lequel, là, ma tolérance au conflit. Là,
ouais.
Il y avait la présidente de l'organisation dans le temps, puis moi, moi, je suis comme 97 sur 100. Là, fait que, tu sais, je suis dans une situation de conflit, mais moi, je suis à l'aise là-dedans. Là.
Hey, baba,
faut que je fasse attention à ça pour pas avoir de l'air insensible avec les autres.
Non,
aussi.
Non, c'est ça.
Mais c'est pour ça que j'aime ça faire de la négo, c'est pour ça que j'aime ça, ce travail-là, parce que c'est dans
le conflit qui t'anime, ben c'est pas quelque
chose. Je vois pas ça comme un conflit.
Non,
moi,
c'est ça.
Je vois ça comme une discussion. Comment je suis capable de comprendre ce que l'autre dit.
Trouver des solutions.
Hein? Même dans mes lectures, je vais lire des lectures sur quoi qui vont me confronter moi-même parce que je veux m'améliorer en tant que personne, puis je veux comprendre ce que l'autre personne veut dire, puis je comprends son point de vue, même si je peux être pas d'accord. Puis je trouve que c'est sain qu'on ait deux choses différentes à dire. C'est pas moi qui prends la décision, là. Des fois, je la prends, la décision, là, mais je veux dire, quand dans la relation gouvernementale, admettons, le syndicat va avoir une position différente à nous, mais je comprends pourquoi ils font valoir ça, puis je pense que c'est simple puis c'est important qu'ils le fassent, tout comme moi, c'est important que je fasse valoir l'opinion de mon membre, puis ça aide le gouvernement à prendre la décision la plus responsable et ayant le moins d'impact possible.
Le moins d'impact.
Pour revenir à la personnalité, je vais peut-être donner un exemple là, pour expliquer. Là, mets-moi dans une salle de 150 personnes, avec pas d'objectif. Je vais avoir de la misère à parler au monde, puis je vais être gêné. Et moi, la même salle avec les gens que je connais pas, avec l'objectif de les convaincre de une chose. Je vais être sur le
terrain.
Que tu
es convaincu puis... aussi au départ.
Oui, oui. Hein? Puis après ça, je vais rentrer là, puis là, je vais avoir de l'aisance.
Un objectif.
À... Ben, je vais avoir de quoi jaser. Ouais. Je vais avoir... Fait que c'est ça. Là,
je comprends très bien. C'est excellent comme exemple parce que...
Mais j'aime le... l'échange, puis dans le respect, puis d'être capable de comprendre l'opinion des autres, mais ça ne doit pas être toujours être le cas de faire face à quelqu'un qui comprend. Souvent, il y en a qui sont bornés, puis c'est leur opinion, puis c'est tout, puis ça s'arrête
il
là.
Il comprend rien,
c'est
lui.
C'est ça,
hein?
Exact.
Et ça, c'est tannant, ça.
J'imagine que ça doit arriver dans ton quotidien.
Oui,
pas tant, non.
Non? Okay.
Non.
Tout du bon monde, ça, à SEI, là. C'est tout des gens extraordinaires.
Non, mais c'est parce qu'ils ne traitent pas juste avec les gens de la SEI.
La politique aussi.
Oui, c'est
tout
ça,
du
la
monde.
Politique,
ils sont
exact.
Très ouverts. Oui.
Oui, oui.
Oui?
Oui, puis ça, je vais le faire dans le respect, puis ça se peut que, tu sais, à un moment donné...
Est-ce que
donné,
ça arrive des fois que c'est
d'accord de
pas,
pas
dans
être
le
d'accord.
Respect?
Ben, non, pas de, non? Que je me rappelle, okay. Pas que de ce que je me rappelle.
OK.
Non. Non.
Fait qu'il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de grosse querelle.
Ben, c'est
querelles,
ça, c'est
hein.
Merveilleux,
ben oui, c'est pas comme dans la construction, tu sais.
Ah, ça, je pourrais pas
non,
dire.
Non, mais tu sais, on lance bientôt dans la jungle de la construction. Vous allez rire. Sérieux, là, nos auditeurs vont triper à planche. Parce que oui, c'est une grosse partie de l'économie, hein? Mais ça parle drôle des fois. Ça chicane un petit peu. Mais on vous le souhaite pas. On vous le souhaite pas chez FCEI.
Ben, c'est sûr que des fois, il peut y avoir des froids, mm-hmm.
Mais ça s'explique.
Oui, mais tu sais, ça fait partie. Mais,
vous êtes bien reçu aussi quand vous allez délivrer vos messages, puis.
Oui.
Oh, je sens une bémol. Je sens une bémol. C'est qui eux autres, le F? C'est quoi, là, FCEI? C'est quoi
oh non,
ça?
Pas eux autres.
Pas eux autres. Pas François
non,
Vincent.
Pas, pas les gants blancs. Mais, okay. Mais non, tu sais, je fais. Tu sais. Je ne sais pas quoi répondre.
Mais en fait,
mais
faire,
j'essaie
c'est écouter,
de trouver des
puis...
exemples, mais. Okay. Mais non, mais c'est sûr qu'il y en a qui ne doivent pas. qui doivent trouver que je suis persistant ou que je ne lance pas le morceau. C'est ça, ma job.
C'est là. T'es là pour ça, c'est ça,
c'est
exactement.
Ça. Je serais pas. Je serais pas à l'aise avec ce que je fais si je le faisais pas de cette façon-là. Là, okay. Parce que je veux dire. Mon rôle, c'est de faire valoir. Le membre va. Il a le choix de venir ou pas avec nous. Là. Mm-hmm. C'est un investissement.
Il trouve
qu'il va
il
faire.
Trouve son compte
puis,
aussi.
Ben,
t'sais.
C'est ça. Puis après ça, s'il veut pas avoir un politicien qui va le gérer, là, mm-hmm. C'est pas ça. Là. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte de porter sa voix. De le faire, que quand il va lire les journaux, quand il va me voir à la télé, bien, qu'il dise lui, il comprend ce que je vis, puis il l'exprime ouais. Bien. Puis après ça, bien, c'est pas moi qui est dans la chaise du décideur.
Mm-hmm.
Mais si je veux avoir une probité envers moi-même, puis ce que je fais, bien, C'est à qui je suis redevable, ben c'est mon membre.
C'est les membres, oui. Si, tantôt, tu disais aussi, François, que la majeure partie de vos revenus, c'est les adhésions.
Oui.
Vous faites quoi comme marketing, prospection? Comment les gens comme Michel, qui est membre, qu'elle a été interpellée, comment vous procédez?
C'est beaucoup porte-à-porte. Encore.
Ah oui?
Oui, on a des représentants, on a 40 environ au Québec.
Qui vont les entreprises.
Oui, qui font porte à porte, qui vont chercher des références. Puis ensuite de ça,
LinkedIn
qui
vont... un peu, peut-être? Non, je sais. LinkedIn, le site web?
Peut-être.
Le réseau social.
Oui, mais ça va être aussi, admettons qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui va référer à d'autres entrepreneurs. Puis c'est sûr qu'il peut avoir des on appelle ça des leads qui viennent d'ailleurs. Là. Admettons, il tombe sur une de nos pétitions ou s'il va sur notre site puis il s'intéresse.
Oui, il voit à la télé.
Ou il va faire le processus d'adhésion, mais il ne complète pas.
Ouais.
Mais principalement, c'est une force de représentants qui vont rencontrer individuellement chaque entrepreneur. Puis nous, on a comme un... On y va au moins une fois par année. On accompagne le représentant, puis on va rencontrer les entrepreneurs. Moi, j'étais allé à Saint-Jean-sur-Richelieu l'année passée. J'ai fait trois rencontres sur le terrain. J'aimerais ça au moins en faire un par trimestre, puis aller faire des cold calls, là, puis aller rencontrer les entrepreneurs. Je dis, bon, peux-tu vous prendre 15 à 20 minutes pour vous présenter notre organisation, puis faites votre choix, puis est-ce que vous voulez nous encourager à faire partie... Faire partie de notre organisation pour qu'on.
Ça veut dire qu'une équipe aux ventes, là, je veux dire, il y a une équipe au développement. Donc, non, mais pourquoi j'ai posé cette question-là, tu me vois venir un peu. C'est qu'à un moment donné, ça vous prend un podcast.
Ben oui. On ne veut pas faire compétition au podcast qui existe.
Ben non, mais je veux
on
dire.
Y a pensé.
Non, mais un podcast, mais, un podcast qui mettrait en lumière vos intervenants, vos. Là, je vois qu'il y a un paquet de.
On fait des webinaires, on fait beaucoup de webinaires.
Et au niveau des avantages du membre, tu sais, vous avez beaucoup de partenaires, Chase, Northbridge, je ne veux pas tous les nommer, là, mais il peut y avoir des capsules là-dessus. En tout cas, plein. Moi, je lance des idées parce que, tu sais, c'est un studio.
Pour les partenariats, il faut que ça soit possible de le faire partout à travers le Canada.
Ben oui.
Après ça, pour le...
À Star avec le Zoom, là. Zoom-zizing, là, il y en a plein, là. non, mais tu sais, je dis Zoom tout le temps, mais les gars m'ont repris cette semaine, là. On a une autre technique ici, là. D'ailleurs, après toi, on a une rencontre avec quelqu'un de Montréal.
OK.
Donc, c'est vraiment, les gars, il faut que tu sois dans les studios, que ça soit bien équipé.
Oui, c'est sûr.
Mais en tout cas, je lance l'idée. Je vois Banque Scotia, je suis client là, je les aime beaucoup. Mais je trouve ça le fun parce que, tu on parlait tantôt de faire connaître. C'est sûr qu'une équipe de vente, c'est parfait parce que là, on disait tantôt main à main, à bédaine, porte à porte. Mais il y a aussi le web, la distance.
Oui, mais moi, je te dirais, quand mon représentant revient pour mon adhésion.
Oui.
Ça fait 11 ans que je suis avec la FCI. Puis à chaque fois, j'en apprends sur ce que je pourrais bénéficier comme service à la FCI. Que ce soit, je pense que même vous donner des conseils des fois au niveau RH, même de droit et tout. Fait que sur les droits des entreprises qu'on n'utilise pas du tout parce qu'on se dit, bon, je vais contacter mon avocat, mais peut-être qu'un appel à la FCI, t'aurais ta réponse facilement.
T'aurais ta réponse. Puis en plus,
on fait pas de conseil juridique. Par exemple, on peut les outiller sur qu'est-ce qui existe pour aider à prendre
la
décision.
Exactement.
Tu sais, quand on sait qu'il faut qu'il consulte un avocat, on le dit, il faut consulter un avocat. Mais le département des ressources aux entreprises, c'est un des départements qui, quand il est connu, il est utilisé. Là. Puis le taux de renouvellement, quand une personne appelle deux fois aux ressources aux entreprises, dépasse les 90 %. Okay. Je pense que ça va jusqu'à 97 %. J'ai été responsable gestionnaire des ressources aux entreprises avant de partir à la PCHQ. Là. On avait fait une grosse stratégie pour améliorer
la rétention.
Comment on pouvait percer puis bien répondre aux besoins des membres. Parce que tout est une question de d'attente. Si j'appelle puis je veux faire virer la décision du conseil municipal puis qu'on me répond non, bien, puis que je pense que je peux le faire, bien là, tu viens de créer une insatisfaction.
Tout est une question d'attente.
Puis après ça, c'est quoi ton besoin? Bien, beaucoup les RH, beaucoup de la compagnie pour...
Les subventions aussi. Des fois, moi, c'est le même, j'avais été membre de la FCEI, c'est que je me cherchais. J'avais entendu parler qu'il y avait des subventions dans mon domaine pour les petites entreprises, parce que je démarrais un projet à l'époque. Puis les gens me disaient, ben appelle à la FCEI, ils vont te plugger, là. Ils vont te dire, va, tourne à droite, tourne à gauche. Mm-hmm. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Puis j'avais pas eu ma subvention, mais j'avais au moins eu le service puis les informations de votre équipe, de votre organisation.
Fait que c'est d'une paire de bras de plus qui peuvent aider. Puis quand
mais
on peut pas, on le dit. Là.
Mais voyons!
Ben, je vais en parler à la réunion lundi prochain. Là.
J'ai dit, moi, je m'offre pour vous supporter là-dedans. Ben non, mais c'est vrai.
Mais là, on a pris l'angle des webinaires pour l'instant là, avec la pandémie.
Puis là, on les voit sur la page Facebook de FCI.
Ben, c'est en ligne quand on s'inscrit puis on assiste live. Là. Admettons, nous, au Québec, on avait eu le ministre Fitzgibbon, le ministre Boulet, on avait eu qui d'autre?
Le
ministre
des Finances.
Okay. Oui, puis ça, c'est disponible sur YouTube.
Sur YouTube. Vous avez une chaîne YouTube.
Oui, après, okay. c'est diffusé sur YouTube, mais les personnes peuvent y assister avant, poser des questions, puis etc. Là.
Sur FCEI, là, il n'y a pas un onglet là, où est-ce qu'on peut les reprendre, exemple?
Non, il faut cliquer sur la chaîne YouTube. Je pense que dans certaines pages, on va le mettre, là, mais c'est pas moi qui est responsable de ça.
Non, c'est correct. Non, je posais.
Parce qu'il y en a assez de sa job à lui.
Non, je sais, mais moi, tu commences ici, c'est des formations professionnelles. On était avec une équipe de marketing, Bronco Marketing. On les salue, les gars, en haut, ils travaillent très fort. Je dis, les gars, il n'y a plus de filles. Barouette, il y avait une fille au début, un peu là. Non, là, c'est rien que des gars. Bon. S'il y avait une fille, il serait encore bien plus fort, hein? Je le sais, moi. Tu le sais, hein, toi aussi. Ben oui, tu peux pas le dire, toi. Moi, j'ai le droit. Moi, j'ai le droit de le dire. FCEI, ça représente combien, l'équipe, employés? C'est du monde en tabarouette, là.
Mon équipe, ouais. Les affaires législatives, là, ceux qui vont défendre l'intérêt, ouais. On est la plus petite association patronale au Québec.
Okay.
On est la plus visible dans les médias. Il y a eu un article de...
Le 80-20, l'espèce de loi de Pareto, peut-être?
Oui, mais on est cinq.
Ah,
oh, ouais. Okay. Nos compétiteurs.
Puis vous virez comme 90. Hein? C'est bon.
Mais on s'appuie sur une belle équipe de recherche. Donc, on a des opportunités à chaque mois de poser des questions d'omnibus, puis etc. Mais après ça, le contenu, c'est nous qui le faisons. T'sais. Fait que je vais pouvoir poser cinq questions ou deux questions dans un omnibus. Fait que c'est moi qui monte les questions. C'est moi
qui excuse mon ignorance. C'est quoi l'omnibus?
L'omnibus, c'est que tu poses plein de questions différentes dans un sondage. Ça s'appelle un omnibus.
Parfait, merci.
Puis donc, on en a un au national à chaque mois.
C'est pas tout seul, hein, que ça va pas.
Excusez-moi, des fois, on a les acronymes puis on oublie.
Oui, c'est ça.
S'il y a un sondage sur une question, sur un sujet, mettons, je fais un sondage sur la fiscalité. Mais là, ça va être un sondage sur la fiscalité. Mais dès que je mets plus qu'un sujet, ça s'appelle un omnibus. Puis avec la pandémie, au début, on a commencé à faire ça. On a quand même changé pas mal d'affaires durant la pandémie. Puis on en faisait un par semaine sur les impacts de la COVID. Puis après ça, c'est allé vers un... Bien, on avait 20 000 réponses. Là. C'était juste
c'est fou,
là. Puis ça a été un... Excusez-moi l'anglicisme, un game changer, mm-hmm. là. Au début, on était les seuls qui étaient capables d'avoir des données puis de réagir rapidement, OK? Fait que je passe sur une autre affaire, là. Je m'excuse.
Non, mais c'est correct parce que ça se tient
c'est
tout.
C'est intéressant.
Puis là, on faisait nos questions de sondage dans la semaine, on les canait, puis le vendredi, après ça, ça partait le vendredi, samedi, puis on avait 20 000 réponses. L'équipe de recherche faisait les résultats. Le lundi, on avait un appel avec les décideurs. À la fin, il y avait 200 personnes qui étaient sur l'appel, des directeurs de cabinet,
wow.
des hauts fonctionnaires... partout à travers, dans les provinces, puis au gouvernement fédéral. Puis le mardi, on sortait nos résultats. Puis on repartait le mercredi avec un nouveau sondage. Fait que tu sais, les programmes, là, c'est nous autres qui les ont gagnés.
C'est ça.
Il y a beaucoup d'autres organisations qui en ont parlé, là, mais les premiers qui ont parlé de la subvention, là, c'est nous autres qui en ont parlé. C'est nous autres qui sont les membres là-dessus. Puis après ça, quand les programmes étaient mis en place, on les analysait, puis après ça, on les présentait le jour d'avant aux décideurs, puis après ça, on allait... le rendre public. Puis là, au fur et à mesure, le nombre de répondants ont diminué, puis là, on est rendu à faire des mensuels, on arrête durant l'été. Donc, il y a des opportunités. Fait que nous, on utilise ces opportunités-là, puis après ça, on les concrétise. Fait que des fois, je vais utiliser deux ou trois omnibus mensuels, puis je vais être capable de faire un rapport de recherche parce que je vais avoir posé mes neuf questions, mais dans trois sondages différents. On dispatche des dossiers avec mon équipe qui est fantastique, là. Sincèrement, là, j'ai vraiment des belles personnes.
On peut quasiment les nommer, là, cinq.
Il y a Francis Bérubé, qui est directeur aux affaires provinciales.
Bonjour, Francis.
Bonjour. Il était basé à Lévis. Lui, il a une super belle expérience. C'est une super tête politique. Il a une super belle plume. Il y a Clémence Joly, qui est analyste principale des politiques. Ensuite de ça, il y a Maude Larivière, qui est attachée de presse. Benjamin Rousse, analyste des politiques. Puis Aïcha Laperrière, qui est coordonnatrice aux affaires législatives. Ça fait cinq, là.
Oui. Puis les moi... cinq doigts de la main.
Puis moi. Puis c'est ça, on se donne un plan dans l'année. On a comme un top 10. On définit notre objectif, nos messages clés, notre stratégie. Puis après ça, au milieu de l'année, ben on revoit qu'est-ce qui s'est passé, comment on réaligne ça, mais on fait pas mal notre contenu nous-mêmes.
C'est intéressant, j'aime ça, parce qu'il y a beaucoup de statistiques, c'est bien sûr, suite au sondage. Hein, puis c'est comme ça un peu que vous portez la voix, hein, c'est ce qu'on va dire. Moi, je suis allé voir un peu le site, puis je vois les sondages. Il y a du stock.
Oui.
On est actif, là. On fait un communiqué de presse par semaine, à peu près. Oui. Là, puis...
Ben, c'est ça. Puis je vois.
Tu travailles en amont, là. Je veux dire, je veux pas.
Oui. Quand t'es
c'est dessus. Christian.
C'est Christian. Bonjour, Christian. Comment ça va? Ben non, c'est parce que mon auto est prête, est au lavage, mais j'avais baissé normalement. Là, les gars vont me chicaner parce que j'étais supposé d'être en mode avion. Ce que je trouve le fun, c'est que vous divisez vos sondages par secteur d'activité, mais ça reste que les réponses, c'est-à-dire, mais ça reste que la question est la même. On va parler de récession, on va parler de... Est-ce que vous êtes inquiet comme PME dans les prochains mois? Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez vécu dans les derniers mois? Ben, je trouve que vos sondages représentent bien... Il y a du travail là-dedans. Là.
Ah oui, on a une super belle équipe de recherche. C'est Simon Gaudreau qui est économiste en chef. J'ai travaillé avec lui avant d'aller à la PCHQ. Là, on a quasiment été embauchés en même temps. Là. Ça fait comme 11 ans, 12 ans qu'on travaille ensemble. Une super tête, un grand cœur. Puis amène l'organisation ailleurs aussi. Là. On a publié un... ils appellent ça en anglais, c'est le Nowcast. En français, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est le bulletin trimestriel. Fait que dans le fond, au lieu de faire une analyse à long terme, on fait une analyse sur le trimestre qu'on est en train de vivre. Sur nos données, ça va être quoi? Fait que ça, c'est vraiment grâce à nos données de sondage, l'analyse de son équipe à l'économie. Donc, il y a vraiment il produit du bon contenu. Puis c'est ça qui est le fun avec l'organisation dans laquelle on travaille. C'est qu'on va être capable de s'entraider, de challenger. Moi, je vais faire un projet de recherche avec un de mes collègues. Mais après ça, je vais le faire passer par son équipe pour voir si je suis correct, ma méthodologie est-tu OK? Puis ça va toujours se faire dans une optique de d'enlever les biais. On va avoir la meilleure étude possible. Puis ça repart du fondateur qui était professeur, puis qui avait une volonté au début d'amener un volet aussi de connaissance de l'entrepreneur. Donc c'est ça. Puis on essaye, je vais refaire ma... J'ai des longues phrases, ça m'arrive des fois. On essaye de ne pas juste sortir du pourcentage, mais d'aller plus loin. On est sorti il y a deux semaines, j'ai co-écrit cette étude-là avec Laurana Baumal sur le temps supplémentaire que les entrepreneurs font, puis la semaine moyenne d'un dirigeant d'entreprise qui est en situation de pénurie de main-d'œuvre, c'est 59 heures par semaine.
Madame.
Fait qu'on a utilisé nos données de sondage pour être capable d'aller chercher un shift. On a calculé aussi l'impact des pertes économiques au Québec pour la pénurie de main-d'œuvre, 11 milliards de dollars. T'sais. Fait qu'on va plus loin que juste dire que 60 % veulent ci ou ça. Là. On essaye
Il y a de l'analyse aussi derrière le chiffre, parce qu'on peut faire par les chiffres comme on veut.
Mais des fois, c'est dur, là, mais tu sais...
Mais il faut l'analyser comme il faut.
Mais la pénurie de main-d'œuvre a apporté autre chose aussi en termes de qualité de service. Comme si, après la pandémie, on a accepté qu'un service moins optimal était correct.
Tellement vrai ce que tu dis. J'ai l'impression, j'étais avec mon épouse là pas longtemps, pour ceux et celles qui vont des fois aux États-Unis, bien, qui allaient à l'époque, arrivé en Floride, là, tu voulais te faire servir, là, c'était l'enfer. À moins d'être dans les 5 étoiles et plus haut de gamme. Parce que là, ils sont au ralenti. Puis là, toi, t'es speedé. Puis t'as 3-4 comme. T'es en vacances, mais tu sais, nous autres, on est vite. Hein? Mm-hmm. Le monde de Québec, on veut que ça aille vite. Je parle. Là, on arrivait ici, on disait, mon Dieu, qu'on a du beau service dans nos restaurants, dans nos dépanneurs. Puis on a un beau service partout, puis des beaux sourires, puis les gens sont... C'est fini, là.
Mais c'est parce que comme entrepreneur, c'est rendu que tu prends pas le moins pire. Tu
non,
prends n'importe le qui. CV qui ouais,
que tu as reçu. Le CV. Si t'en reçois un.
C'est ça, exactement.
Si t'en reçois un. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais on s'en va où, là?
Ouais.
En soi, avec ça, là, on s'en va où, l'économie?
C'est, ça va être dur.
Là. Non, non.
Sincèrement.
On va continuer à faire des podcasts?
J'espère!
Tu sais, il y a des... Puis là, on est en train d'un peu d'essayer de... Je vais faire attention à mes mots, là. Récemment, j'ai vécu quelque chose. On est en train de s'attaquer ou de s'attarder aux symptômes de la pénurie de main-d'œuvre plutôt qu'à s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre. Mm-hmm. Là, on voit que, mettons, fermeture une certaine journée. Oui. J'ai une partie de mon membership qui le veut vraiment. Et l'autre, qui veut, une autre partie qui ne veut pas. La majorité des entrepreneurs ne veulent pas.
Genre le dimanche?
Oui, genre le dimanche.
Revenir comme avant?
Mais une fois que c'est adopté, je veux dire, celui et que c'est sa grosse journée puis il passe à vendre, ça lui fait mal. Amazon ne ferme pas le dimanche.
Non.
Puis si après ça, ça se replace, ben, puis on modifie le règlement ou la loi, ben, ça va prendre du temps avant que ça revienne. Fait que,
c'est des gros bateaux.
Mais
là.
Pourquoi ils demandent ça, les entrepreneurs? C'est normal. Ils font 59 heures en moyenne. Ça veut dire qu'ils en font plus puis ils ont besoin d'un break. Je peux pas continuer sur cette... rythme-là. Donc, c'est quoi ma solution? Bien, tu sais, il faut trouver une façon de fermer. Mais tu sais, c'est le travail des enfants récemment. Il n'y a aucun entrepreneur qui se font du fun à l'embaucher des enfants. C'est pas vrai, là.
Mm-hmm. Non, mais non.
C'est pas vrai. Ça, c'est parce que moi, j'ai commencé à 16 ans, mais il n'y avait pas de place. Il n'y en avait pas de place. Mm-hmm. Donc là, prochainement, je suis sûr qu'on va aller parler du décrochage scolaire chez nos jeunes, surtout en région, qui vont être capables d'avoir des bonnes jobs payés. Puis là, on va voir, on veut augmenter la diplomation. Moi, je suis persuadé que c'est le prochain gros enjeu qu'on va vivre là, comme symptôme de la pénurie de main-d'œuvre, ça va être ça. Donc, où on s'en va, ça va être... J'irais...
Pas dans le mur, là, dis-nous pas ça.
Ben non, mais il va peut-être avoir une concentration plus d'entreprises.
Ouais. Il y en a peut-être qui vont se regrouper.
Ouais.
Hein, parce que, puis le, tu sais, c'est d'avoir des employés peut-être communs, tu sais, genre.
Partager une adjointe.
Ouais, c'est ça, tu sais, peut-être.
Quand c'est possible.
Un comptable, tu sais, ou un contrôleur.
Je pense pas que c'est ce qu'on veut. On veut avoir des entreprises. Tu sais, avoir de la petite entreprise comme étant le driver de ton économie, t'assures une résilience, t'assures un renouvellement, tu sais.
Mais c'est pas ce qu'on veut, mais à un moment donné, on n'aura pas le choix peut-être de se rendre à l'évidence.
Ouais, on travaille très fort là-dessus. Tu sais, ouais. Je dirais qu'il y a trois pans d'action majeurs que le gouvernement peut faire. Le premier, c'est travailler sur la main-d'œuvre disponible. Donc, comment on augmente les personnes disponibles. Donc, notamment les travailleurs plus expérimentés. T'sais, si on fait juste aller chercher le taux d'activité de l'Ontario, là, c'est des dizaines de milliers de nouveaux travailleurs qu'on a. De bien arrimer ou de trouver une façon de que les gens qui ne sont pas d'emploi trouvent les emplois. Mm-hmm. Le problème, c'est vraiment la dichotomie entre la formation et les postes disponibles là, qui ne matchent pas vraiment. Parler d'immigration puis de régionalisation de l'immigration. Là, on a fait une belle recherche avec Francis Bérubé, d'ailleurs, qui démontrait qu'annuellement, il manque 18 000 immigrants dans les régions juste pour subvenir au renouvellement de postes de 1 sur 5 qui provient de l'immigration selon les données du gouvernement du Québec. Et il y a un manque de 18 000 immigrants dans les régions. Donc, comment on fait pour réussir ça?
Diminuer un peu la complexité administrative?
Oui, trois pans. Donc, le premier, c'est ça. Bien, ça le deuxième, c'est d'alléger la paperasse parce que les dirigeants d'entreprise ont de moins en moins de temps. Fait que si tu allèges la paperasse, bien, tu donnes du temps à ton entrepreneur qui n'a pas... Ça, je co-préside le comité conseil d'allègement réglementaire avec le ministre Skate, le délégué à l'économie, puis la FCEI. C'est l'organisation qui a mis l'allègement réglementaire sur la carte avec la création de la semaine de la sensibilisation de la paperasserie il y a plus que 10 ans. Avant, c'était pas une priorité. Maintenant, c'en est une.
Bravo.
Puis là, je travaille très fort pour ramener les villes à adopter des plans aussi. Parce que le fédéral a des plans, le provincial a des plans.
Le municipal aussi.
Ils n'en ont pas.
C'est ça. Vous impliquez.
Troisième élément, trouver une façon d'aider les entreprises à améliorer leur productivité puis l'automatisation. Mais là, on tombe dans la spirale négative de la pénurie de main-d'œuvre. Ton dirigeant d'entreprise qui a moins d'employés, il est prêt à éteindre des feux sur le plancher de l'entreprise. Oui. Il n'a pas le temps d'aller trouver les programmes. Oui. Donc, il y a plein de programmes qui permettent de faire un effet de levier, mais qui n'atterrissent pas en petite entreprise. Mm. Donc, nous, on travaille très fort là-dessus avec le gouvernement pour trouver une façon de bien faire profiter les dirigeants d'entreprise des programmes en place pour s'automatiser, améliorer leur productivité puis avoir besoin de moins d'employés pour faire autant ou même plus.
Moi, j'ai un beau défi pour vous aussi. Mm. Trouver une manière que les entreprises puissent charger pour des no-shows.
On est là-dessus. D'ailleurs, c'était membre, il y a un sondage actuellement. On a lancé le 20 avril. L'Omnibus du Québec, il y a eu un rappel hier, je crois. Okay.
Parce que c'est épouvantable et c'est dans tous les domaines. Même les médecins spécialistes ont des no-shows, c'est épouvantable.
On veut amener une réforme de une modernisation de la loi de la protection du consommateur. Mm-hmm. Puis on a des questions là-dessus. Puis une des demandes, une des propositions qu'on soumet aux membres, c'est justement de modifier pour qu'ils puissent avoir...
Qu'on ait le droit de le faire, même.
De charger de nos shows. Puis mm-hmm. aussi, peut-être quand mm-hmm. quelqu'un annule, mettons, pour un gym, là, pour des cours de yoga ou tout, tu as un ratio de participants. Puis si à 24 heures d'avis, la personne ne se présente pas, bien, ça change sur la rentabilité du coach ou du... Donc, on a présentement des questions là-dessus. Puis on a une stagiaire qui est rentrée lundi qui va avoir comme mandat de rédiger le rapport de recherche. Puis on a déjà parlé au ministre de la Justice, puis on a même un mandat au registre des lobbies. Donc on s'en vient là-dessus. Là. Fait que ça va être un de nos plans d'action de garder la loi, puis c'est important, mais de peut-être l'adapter au monde d'aujourd'hui.
Parce que j'ai calculé dans mon entreprise seule l'année passée 70 000 $
My God!
C'est énorme, là. Juste sur l'entreprise, c'est sur les employés qui sont payés à la commission aussi.
Je pense que les consommateurs comprendraient, puis seraient prêts.
Il y a des consommateurs qui sont aussi en affaires. Tu sais, mm-hmm. Les autres comprendraient, c'est sûr.
Ça responsabiliserait la décision du consommateur.
Dans une ère où tout le monde a son téléphone dans ses mains.
Ben oui, c'est ça.
À longueur de journée aussi. Là. Mm.
À longueur de journée, surtout. Les petits, les grands, les moyens, les hein, tout le monde. Même les personnes aînées mm-hmm. sont rendues avec leur...
Absolument.
Ça, c'est bon pour l'économie. Je te laisserai le mot de la fin. J'aurais le goût de faire ça, moi, avec toi. T'es-tu d'accord, Michel?
Totalement.
Oui?
Je vous remercie beaucoup d'avoir été à la Jungle des affaires animée par Ray-Jean Gauthier. un podcast à écouter, à réécouter bientôt le 500e. Merci beaucoup de cette opportunité-là. Souvent, je vais avoir des entrevues de 7 minutes, de 5 minutes, des fois 15. Mais là, de pouvoir aller en une minute en style conversationnel, je me sens privilégié d'avoir pu passer ce moment-là avec vous.
C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup.
Oui, merci. Puis j'étais membre, puis je ne sais pas pourquoi. Peut-être que mon monsieur de renouvellement ne m'a pas rappelé. Non, mais il y a une affaire, par exemple, je pense que...
FCI.ca.
Oui, je vais aller m'occuper de ça. Moi-même m'occuper de ça. François-Vincent, merci beaucoup.
Merci.
Félicitations aussi pour ce beau travail. Belle organisation, c'est le fun. Il y a peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent, qui n'étaient pas au courant peut-être des fois que ça existe. Alors, ça fait quand même un bout, c'est là, hein, FCEI, c'est pas hier, mais ça reste que... mais il y a un podcast dans l'air, surveillez ça, vous allez voir.
Pour l'instant, sur YouTube.
J'ai pris aucun engagement.
Le podcast de FCEI, mon mec qui fait de ça, moi, Vincent. On va mettre un rouge là-dessus. Merci, Michel.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup. Et si vous voulez être beau et belle et vous sentir bien dans votre peau, allez voir l'équipe chez Divan. Écoutez, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, hein? Mais une chose est sûre, on aura du plaisir.
Merci d'avoir écouté la jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.